Vous écoutez
RMC.
Il est 7h et vous écoutez RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La foule n'a pas de légitimité. C'est la nouvelle sortie d'Emmanuel Macron devant les parlementaires hier soir avant de prendre la parole à 13h à la télévision. Il y a encore eu des tensions hier soir dans les grandes villes. 46 interpellations à Paris, réponse policière pointée du doigt. Vous l'entendrez ce matin, les dockers rejoignent les raffineurs au lendemain des affrontements à Fos-sur-Mer. Et puis un témoignage ce matin, celui du petit garçon de 6 ans blessé dans l'accident provoqué par Pierre Palmade.
Et puis notez que juste après votre journal. Rendez-vous avec l'avocat Arié Halimi. Il dénonce des violences policières. Il était avec des manifestants interpellés. À 7h40, on fera le point sur la situation à la pompe en région PACA. Et puis 8h30, ce sera Sandrine Rousseau, mon invitée politique. Emmanuel Macron donne déjà le ton.
Oui, le président prendra la parole pour la première fois depuis le 49-3. Ce sera tout à l'heure 13h sur BFM TV, TF1 et France 2. Mais hier soir, il a tenu cette phrase à Sébastien Krebs du service politique à RMC. Il a dit que la foule n'avait pas de légitimité face au peuple qui s'exprime au travers de ses élus.
Et la phrase n'est pas passée inaperçue. Et dans l'entourage du président, on assume, il y a un processus démocratique, un débat au sein des institutions. Les élus sont légitimes, la foule, elle, n'est pas représentative. Répété encore hier soir son entourage, hier soir dans la salle des fêtes de l'Élysée, face à tous les parlementaires de la majorité, Emmanuel Macron s'est posé en garant de l'ordre républicain au moment où de nouveaux incidents éclataient, notamment à Paris. L'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple, dit-il. Il fallait aussi ressouder les troupes des élus échaudés par l'usage du 49-3. En démocratie, dit le président, ça n'est pas parce qu'un texte passe à très peu de voix qu'il est illégitime. Utiliser la Constitution pour faire passer une réforme est toujours une bonne chose.
Et on imagine que ce sera la teneur de son discours tout à l'heure à la télé.
Ah oui, en tout cas en partie, parce qu'on risque de voir un président entre message de fermeté, message d'autorité et message d'apaisement. Et il l'a dit aussi hier soir, s'ouvre une période où il faut apaiser, où il faut calmer, où il faut retourner sur le terrain et écouter les colères, phrase qui a été applaudie par les élus. Il demande à ses ministres de travailler différemment. Il va aussi donner le cap, peut-être annoncer des mesures sur la santé, l'école, l'écologie. En revanche, ce qu'on sait et ce dont on est sûr, c'est qu'il n'annoncera pas le retrait de la réforme, c'est qu'il n'annoncera pas de dissolution, ni de remaniement ministériel, en tout cas pas tout de suite.
Et les moments forts, les réactions, ce sera évidemment sur RMC, à la radio rmc.fr, notre site internet. Alors si Emmanuel Macron parle au journal de 13h et pas à 20h, comme on aurait pu l'imaginer, c'est pour parler au territoire et aux Français qui rentrent manger à la pause déjeuner. Ce sont les éléments de langage dans le camp présidentiel. Pas sûr donc qu'ils soient entendus par les opposants, les grévistes, par exemple à Rouen, avec Romain Poiseau pour RMC.
En plein blocage de l'incinérateur de la métropole de Rouen, la prise de parole du président ne fait ni chaud ni froid.
Macron, pour nous, on n'attend plus rien. C'est plus mon président.
Judicaël Gibon, de la CGT Docker à Rouen.
Ça fait des mois qu'on l'entend plus. Là, il doit se dire, je vais prendre la parole pour calmer un peu le jeu, quoi. Il va encore nous prendre pour des gamins, quoi. Faut arrêter de faire les enfants, parce qu'il aime bien dire ces petits mots-là.
Le président de la République, qui pourrait appeler à la responsabilité des syndicats, appeler à ne pas bloquer le pays.
Aujourd'hui, c'est lui qui est irresponsable.
Irresponsable de faire passer sa réforme des retraites en force pour Fabrice Lottin, secrétaire général de la CGT Travailleurs Portuaires à Rouen.
Il n'y a plus de règles aujourd'hui. Là, c'est le 49-3 de trop qui retire cette réforme, sans quoi nous, on mettra tout à l'arrêt.
De toute façon, l'intervention d'Emmanuel Macron n'est pas destinée à apaiser le mouvement pour David Le Pentier, secrétaire du syndicat Sudrail en Normandie.
Vu l'heure où il va passer, où il a prévu de passer dans les journaux, dans les médias, il veut s'adresser aux retraités, à ceux qui l'ont élu. Il veut essayer de faire croire qu'il a encore tout le jeu dans sa main, alors que non, il va perdre.
Quoi qu'il dise, il sera demain dans le cortège parisien pour mettre un peu plus la pression sur le président de la République.
Alors en attendant, c'était une sixième soirée de tension dans les grandes villes, notamment 46 interpellations à Paris, mais surtout à Grenoble, il y avait 5000 personnes dans la rue. Et à Nantes, il y avait 4000 personnes, des CRS encore filmés en train de charger violemment des groupes de manifestants qui étaient apparemment calmes dans la capitale. Les forces de l'ordre appliquent les règles de la République, affirme pourtant le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Réponse à ceux, notamment à gauche, qui dénoncent des arrestations arbitraires. Pierre Bourgès a rencontré, écoutez pour RMC, une manifestante qui se dit victime de coups policiers il y a quelques jours.
Assise sur son lit, la jambe d'Amel lui fait encore mal. Le bleu de plusieurs centimètres sur sa cuisse est encore bien visible.
J'en ai fait des manifestations, mais jamais on a
atteint ce niveau de violence.
Lundi, l'étudiante en master est dans le centre de Paris pour manifester, mais la situation se tend et elle se retrouve en plein milieu d'une charge de la police.
On se retrouve devant plein d'officiers de police qui commencent à sortir leur matraque et ils mettent des coups dans ma cuisse pour me dire partez. C'était violent.
D'autres manifestants ont été placés en garde à vue et parmi les clients de maître Ainoa Pasquale, certains ont aussi subi des violences.
Près d'un tiers présente des blessures qui résultent d'interpellations violentes. On est vraiment abasourdi par le nombre et par la nature des interpellations qui ont lieu depuis quelques jours.
Des arrestations arbitraires selon l'avocate. Un exemple, deux Autrichiens de 15 ans sont allés en garde à vue alors qu'ils étaient en voyage scolaire. D'après le quotidien Libération, l'ambassade d'Autriche a dû intervenir pour les libérer.
Et au lendemain des affrontements qui ont fait trois blessés parmi les CRS devant la raffinerie de Fos-sur-Mer où les forces de l'ordre réquisitionnent depuis hier des grévistes, eh bien les manifestants se remobilisent ce matin. Vincent Chevalier, vous êtes en direct pour RMC depuis Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est à côté de Fos-sur-Mer, où les dockers donc soutiennent et se joignent même au mouvement des raffineurs.
Oui, près de 200 travailleurs se sont donné rendez-vous très tôt ce matin ici au rond-point à l'entrée du port Saint-Louis. Des conteneurs et des ont été installés pour bloquer les accès aux entrepôts, des palettes placées sur la route pour ralentir la circulation. Des dockers très remontés en colère, non seulement parce qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus et puisque des violences ont émaillé la mobilisation hier lors de l'intervention des forces de l'ordre. Ils ne comptent donc rien lâcher, selon Christophe Claret, secrétaire général CGT des ouvriers dockers.
C'est la mobilisation contre la réforme de retraite, bien entendu, de Macron-Borne et maintenant de Darmanin, puisqu'elle envoie la répression un peu de partout en France. Tous les ports français sont à l'arrêt 72 heures depuis hier. On reprendra vendredi le travail. Il y a eu de la répression hier sur Fos, puisqu'il y a eu réquisition des travailleurs grévistes, donc on vient casser le droit de grève à coups de matraque et de gaz lacrymogène.
Ils rejoindront peut-être dans la matinée le nouveau rassemblement prévu par les raffineurs devant le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer. Ça sera à 8h.
Et les réquisitions ne changent rien pour le moment à la pompe. 12% des stations sous tension au niveau national. Plus d'une sur deux dans les Bouches-du-Rhône, quasiment autant dans le Gard. 25 stations d'ailleurs réquisitionnées dans ces deux départements pour les véhicules prioritaires. Alors il n'y a pas que les retraites. L'Assemblée nationale a voté hier soir en première lecture le projet de loi sur la relance du nucléaire qui simplifie les procédures pour construire 6 nouveaux réacteurs à l'horizon 2035, mais sans la réforme de la sûreté que souhaitait le gouvernement. On reparle ce matin de l'affaire Pierre Palmade, je vous le disais, avec les premiers mots du petit garçon de 6 ans blessé dans l'accident de la route provoqué par le comédien. Un mois et demi après, le petit Devrim est sorti de l'hôpital. Il témoigne sur BFM TV et vous nous donnez de ses nouvelles, Caroline Philippe pour RMC.
De l'accident, Devrim n'en a aucun souvenir. Un mois et demi après, le petit garçon joue dans sa chambre sous le regard de sa maman. Elle le surveille. S'il bouge trop, les maux de tête se déclenchent. Une des séquelles du choc. Au quotidien, il ne quitte pas son corset en plastique qui lui maintient le bas de la tête, le cou et le haut du corps. Pas même pour dormir.
C'est méchant.
Devrim retourne à l'école. Il est content, même s'il nous explique en turc qu'il ne peut pas faire comme ses copains.
La maîtresse ne me laisse pas sortir pendant la récréation. Elle a peur que je tombe ou qu'il m'arrive quelque chose. Elle laisse les autres camarades rentrer dans la classe pour jouer avec moi.
Devrim va devoir subir une nouvelle opération de la mâchoire prochainement.
Et puis on surveillera le plan de table. Aujourd'hui à Clairefontaine, le nouveau patron du foot français, Philippe Diallo, va déjeuner avec les Bleus de l'équipe de France qui sont rassemblés à Clairefontaine pour préparer les deux matchs de qualification à l'Euro 2024. Vendredi contre les Pays-Bas, lundi en Irlande. On verra à côté de qui il va s'asseoir et s'il sera assis à côté de Kylian Mbappé, le nouveau capitaine des Bleus.
Le vrai patron du foot français.
Oui, surtout.
Le patron du foot français, en fait, exactement.
Oui. Et d'ailleurs, on l'a vu à Philippe Diallo hier, et Kylian Mbappé.
Comme il se la pétait. Pardon.
On est à l'antenne ou pas?
Je vous demande pardon, il est 7h09. Non, j'ai trouvé en effet que l'arrivée de Kylian Mbappé, que j'aime bien d'habitude.
Lundi à Clairefontaine.
En fait, j'ai trouvé que les cheveux roses de.
Mais ils sont obligés d'être tout le temps en survêt, ils ont le droit de bien s'habiller de temps en temps.
Ouais, mais bon, ça faisait un peu genre I'm the boss.
C'est les lunettes de soleil qui passaient pas.
Ouais, c'était trop. 7h09.
RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosic. Bonjour Amélie.
Bonjour Pauline.
Ce matin, vous relayez l'appel des habitants de Malakoff.
Oui, c'est une ville de 30 000 habitants au sud de Paris, connue notamment pour son tripode, un gigantesque bâtiment de verre et de béton de 50 mètres de haut en forme d'étoile. Si vous nous regardez sur RMC Story, vous pouvez l'observer. C'était le siège de l'INSEE jusqu'à il y a peu, mais désormais il est vide et l'État, qui en est le propriétaire, souhaite y installer le ministère de la Santé et celui du Travail. Les travaux ont d'ailleurs débuté. Des travaux qui sont une aberration écologique. écologique, selon Dominique Cordès, vice-présidente d'une association qui se bat, elle, pour la préservation de cette tour.
On démolit 45 000 tonnes de béton pour reconstruire 45 000 tonnes de béton en face, ça ne veut rien dire. Et sur la même parcelle, en plus de ça, c'est du gaspillage d'espace, du gaspillage d'énergie, du gaspillage de ressources. Pour faire du béton, il faut du sable. Et on sait que le sable commence à être en quantité très limitée maintenant. Alors, on déshabille la planète pour construire un bâtiment qui ne veut rien dire. Il y a toujours des solutions pour ne pas démolir. Il y a des solutions pour réhabiliter, restructurer, mais on ne casse pas.
La pétition en ligne non à la démolition de la tour INSEEM à Malakoff a déjà recueilli plus de 18 000 signatures tout de même.
Mais Amélie, si l'État porte ce projet, on imagine qu'il a de bons arguments. Mais c'est vrai qu'on se dit qu'ils auraient pu mettre les ministères dedans. Quoi.
Exactement, déjà là, et choisir une solution patrimoniale, comme on dit. Mais l'État avance que son nouveau bâtiment sera plus fonctionnel et surtout qu'il sera exemplaire en termes environnementaux. Alors évidemment, on a voulu vérifier. L'État a mené une vaste étude pour comparer les coûts et les effets d'une réhabilitation versus une destruction-reconstruction. Johanna Chabas s'est plongée dans les 45 pages de cette enquête. Conclusion, les travaux de démolition émettront au moins 20% de CO2 de plus qu'une réhabilitation. Et même si un bâtiment neuf présente in fine de meilleures performances énergétiques, donc à long terme, ça ne compensera pas toutes ces tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Et pour ces raisons, la maire de Malakoff, Jacqueline Bellum, soutient aujourd'hui l'association et demande elle aussi une réhabilitation, mais l'État fait la sourde oreille.
L'État, au final, décide d'aménager notre entrée de ville. Bien sûr, il est chez lui sur sa parcelle, mais c'est quand même notre entrée de ville pour les 50 ans à venir, sans prendre en considération ce que veulent les habitants d'aujourd'hui. C'est un enjeu démocratique, puisqu'il y a un déni complet de ce que veulent les habitants et la ville.
Vous avez relancé l'État, j'imagine, Amélie, qu'est-ce qu'ils répondent ?
Alors, les ministères sociaux assument, oui, leur projet émettra plus de CO2, mais à long terme, il devrait coûter moins cher. Par ailleurs, selon l'État, un nouveau bâtiment sera donc, vous l'avez compris, plus facile à aménager pour y mettre les 1800 agents des trois ministères de la Santé, du Travail et des Solidarités et livrer plus vite en 2027 contre 2029 contre une réhabilitation. Une réponse en tout cas qui ne satisfait ni la mairie ni l'association. Ils organisent une délégation devant le ministère de la Transition écologique le 11 avril où ils espèrent enfin être reçus et évidemment on vous donnera des nouvelles.
Et vous nous rappellerez aussi la date donc du 11 avril. Merci Amélie. RMC s'engage pour vous. C'est tous les matins après le journal de 7h.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Répression ou maintien de l'ordre ? L'attitude des forces de l'ordre est scrutée de près et notamment par l'avocat Arié Halimi. Il dénonce, je cite, des violences policières et il est le témoin du jour, c'est dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h14, excellent réveil sur RMC.
Le témoin RMC.
Le témoin du jour, c'est vous, Arié Halimi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, membre du Bureau National de la Ligue des Droits de l'Homme, et ça fait 6 jours qu'on voit des manifestations qui, après 2 mois de manifestations dans le calme, désormais sont des manifestations parfois d'ailleurs spontanées, parfois non déclarées, mais qui quasi systématiquement dégénèrent. Et vous dénoncez l'attitude des forces de l'ordre. Pourquoi ?
Écoutez, je suis beaucoup plus qu'inquiet en ce moment, parce que j'ai l'impression d'une tragédie annoncée. J'ai même l'impression qu'il y a une recherche du drame pour une sortie de crise politique.
Une recherche du drame ? De la part de qui ?
Probablement de l'exécutif, puisque lorsqu'on n'a pas la possibilité de gouverner de manière raisonnable, eh bien, on fait appel à la violence et à la force dans la rue. Ce que j'ai pu voir ces derniers jours...
Vous étiez, vous avez constaté aussi des interpellations, vous avez vu de vos yeux.
Alors d'abord j'ai vu de mes yeux, ensuite j'ai défendu beaucoup de personnes. J'ai vu des centaines de manifestants nassés illégalement. Les nasses sont illégales, surtout lorsqu'on n'a pas la possibilité d'en sortir. Monsieur Nunez a dit qu'elles étaient...
Monsieur Nunez, c'est le préfet de la préfecture de police de Paris.
C'est ça. A dit qu'elles étaient légales. Absolument pas. Elles sont illégales. C'est reconnu par le Conseil d'État, par le Conseil constitutionnel. Quand on voit rue des Capucines, la soir du 49-3, des centaines de manifestants qui essayent de sortir de la manifestation et qui sont nassés d'un côté et de l'autre par des policiers... Tous interpellés, parqués dans des bus qui tournent dans Paris sans pouvoir uriner et boire pendant des heures et des heures, envoyés dans des commissariats et relâchés, 293 interpellations, 283 classements sans suite, c'est-à-dire que l'on sait au moment où on les interpelle qu'ils n'ont rien fait.
À cela, Laurent Nunez répond qu'il n'y a pas eu, je cite, d'arrestation injustifiée.
Elles sont totalement illégales, ces arrestations. Et il le sait, Laurent Nunez, et il ordonne ces arrestations illégales. Et il y a des plaintes qui ont été déposées contre à la fois le préfet et le procureur de la République.
Des plaintes ont été déposées, vous nous confirmez ce matin.
Des plaintes ont été déposées, notamment une plainte par Xavier Mathieu, l'ancien leader des Contis, qui a déposé une plainte bien avant ces manifestations spontanées, lors d'une manifestation syndicale, pacifique, qui a été interpellée à plusieurs centaines de mètres de la manifestation et placée en garde à vue uniquement parce qu'il avait des lunettes de piscine dans son sac. C'est ça les infractions qui sont reprochées. Mais il n'y a pas que ces interpellations massives et illégales. Il y a également des violences terribles. J'ai vu un commerçant vers la rue, vers le Pont Neuf, tabassé dans une ruelle par des braves M qui se sont jetés furieusement sur lui. Les braves M, ce sont des policiers, un certain type de policiers qui sont engagés volontaires, qui recherchent la violence. C'est comme ça qu'on les sélectionne et qui sont lancés dans les rues de Paris avec des matraques et avec des armes. Qui brisent des os et qui font des chasses à l'homme comme on le voit sur les images à longueur de journée en ce moment. Voilà ce que c'est que les braves M. Ce sont les anciens voltigeurs. Vous savez, c'est ceux qui ont tué Malik Oussekine en 1986, qui avaient été interdits justement parce qu'ils se projettent à moto et qu'ils ont une vélocité et une dynamique et une violence terrible.
Ariane Emi, depuis le début de cette interview, vous avez commencé par dire « j'ai presque le sentiment qu'il y a une recherche de drame » et vous dites, à propos de ces policiers-là, que ce sont des gens qui recherchent la violence, qui lancent des véritables chasses à l'homme. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire aujourd'hui qu'au fond, le gouvernement attise et cherche presque à ce qu'il y ait, quand vous dites drame, est-ce qu'il faut comprendre derrière un mort ?
Vous savez, j'ai vu une image hier, place de la République, lors de l'une de ces manifestations, un brave M ou un compagnie d'intervention qui jette une grenade sur la foule en cloche. Cette grenade explose sur la tête d'un manifestant. J'ai très exactement le sentiment que j'ai eu juste après le décès de Rémi Fraisse. Vous savez, c'est ce jeune homme qui, sur la zone de Sivens, a pris justement une grenade sur la tête et qui en est mort. J'ai vraiment le sentiment que c'est ce qui est recherché aujourd'hui. Une tragédie, un drame fatal, une issue fatale pour sortir d'une crise politique dans laquelle bien le président de la République n'arrive plus à sortir.
Est-ce que vous estimez malgré tout qu'il y a aussi une forme de violence qui couvait peut-être et qui explose aujourd'hui du côté des manifestants ?
Alors, vous savez, quand il y a des millions de personnes qui manifestent pacifiquement plusieurs fois, qu'il y a des grèves, qu'il y a un président de la République qui ne peut pas dialoguer avec les corps intermédiaires. À partir du moment où on n'arrive pas à nouer un dialogue avec les corps intermédiaires, avec les zones pacifiques de la société, lorsqu'il y a une montée en puissance, qu'on utilise le 49-3, c'est-à-dire un mécanisme d'autoritarisme constitutionnel, eh bien, il faut s'attendre, et peut-être que l'on recherche justement cette confrontation avec la rue. Mais là, je vous parle de personnes qui sont dans la rue et qui manifestent pour ceux qui ne peuvent pas manifester, c'est-à-dire ceux qui triment et qui vont trimer toute leur vie et qui n'ont pas la possibilité de manifester. Là, on parle d'un peuple entier qui s'oppose à l'exécutif.
Arié Halimi, avocat, membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme, merci d'être venu dans ce studio défendre aussi votre point de vue. Vous dénoncez aujourd'hui non seulement des violences policières, mais on l'entend peut-être même la recherche d'une forme de drame comme une issue de crise. C'est très grave, hein, les propos que vous avez, comme une issue de crise puisqu'il n'y a pas d'issue démocratique. Merci en tout cas à vous d'avoir défendu votre point de vue. Il est 7h20 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Et à suivre, il y aura la région PACA où les grèves continuent dans les dépôts de raffinerie. 40% des stations sont complètement à sec. L'économie commence à en souffrir. En tout cas, c'est vos témoignages, tiens, au 32-16. Pour nous faire remonter ce qui passe sur le terrain, vous êtes patron de TPE, de PME. Appelez-nous depuis la région PACA au 32-16. Avant cela, de rendez-vous jusqu'au journal de 7h30. Il y aura l'économie avec Emmanuel Le Chypre et puis Arnaud Demanche qui pirate le 32-16.
Apolline Matin. Les indiscrets RMC.
Et les indiscrets du service politique, c'est avec Romain Cluzel. Bonjour Romain.
Bonjour Apolline.
Romain, l'exécutif multiplie les consultations pour relancer le quinquennat, mais ce qui se joue aussi en coulisses, ce sont les relations internes à la majorité.
Oui, plusieurs épisodes ont laissé des traces ces dernières semaines entre Renaissance, Modem et Horizon sur les retraites, les peines planchées ou encore les violences conjugales. Alors hier, la chef de la majorité, Elisabeth Borne, a fait la tournée des réunions des trois groupes parlementaires. Un passage loin d'être anodin et perçu comme un signe de considération. D'ailleurs, le patron d'Horizon, Édouard Philippe, était présent pour recevoir en personne la première ministre hier. Selon un participant à la réunion, Elisabeth Borne a insisté sur l'importance d'une majorité unie. Pour pour continuer d'avancer. Réponse en forme d'aveu d'Edouard Philippe, on a des marges de progression et l'ancien Premier ministre le redit ce matin dans le Figaro.
Alors ça c'est pour le constat, mais comment améliorer les choses?
C'est tout le problème, pour l'instant aucune solution miracle ne semble émerger. Se tirer dessus à boulet rouge, ça ne sert à rien. La seule solution c'est le dialogue, s'agace un modem qui prône davantage de communication entre les groupes, notamment pour ne pas découvrir au dernier moment des textes présentés par d'autres membres de la majorité. Mais ça doit venir d'en haut, des chefs de parti, estime une députée macroniste. Selon elle, ce sont d'abord François Bayrou, Édouard Philippe et Emmanuel Macron qui provoquent les tensions et la situation risque de ne pas s'arranger. Plus le quinquennat avance, plus François Bayrou et Édouard Philippe vont être en compétition, anticipe un député Renaissance.
Romain Cluzel du service politique d'RMC Les Indiscrets, c'est tous les jours à 7h20.
RMC, Apolline Matin.
7h24, l'heure de l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Et on fait le tour des rayons de supermarché ce matin pour voir de combien ont augmenté les produits stars des grandes marques, Emmanuel.
Oui, Apolline, c'est 60 millions de consommateurs qui est allé relever les étiquettes d'une quarantaine de produits de grandes marques parmi les plus présents dans nos caddies. Alors, pour cadrer les chiffres, les prix moyens de l'alimentation ont augmenté depuis 2 ans, puisque c'est le référentiel qu'a choisi 60 millions de consommateurs. 2 ans, c'est 17,2% d'augmentation pour les prix alimentaires. Alors accrochez-vous bien. Le produit de tous les records, c'est le sucre en poudre Béguinçay, dont le prix a bondi de 1,87€ à 2,92€. Ça fait quand même 55% de hausse. Spectaculaire aussi, les 10 steaks hachés surgelés Charal. Ça valait 8,06€ il y a 2 ans, plus de 12€. Aujourd'hui, ça fait 49% de hausse. Et puis après, on a les pâtes Barilla, 42% de hausse. Le beurre président, 35%. Les 6 bouteilles de lait Candia, le pain de mie Harris et l'huile d'olive Puget, 24% de hausse sur 2 ans.
Et on parle beaucoup des grandes marques, mais leur prix reste globalement plutôt contenu en fait.
Eh ben oui, effectivement, par rapport aux marques de distributeurs, on voit que Coca-Cola, Nutella, le jus d'orange Joker n'augmentent pas trop. Pourquoi ? Eh bien parce que dans ces produits, la marque, hein, vous la payez, c'est du marketing. Et donc, c'est plus facile pour ces marques-là de réduire leur marge que pour les marques de distributeurs dans lesquelles il y a finalement une part des produits qui est beaucoup plus importante. Attention toutefois, on commence tout juste à voir les effets des dernières négociations commerciales, puisque lors de la première semaine de mars, les prix ont augmenté de 0,5%. C'est 2 fois plus que les semaines précédentes.
Et il y aura d'ailleurs à nouveau, c'est Bruno Le Maire qui l'annonçait sur notre antenne lundi matin, il y aura à nouveau un round de négociations pour espérer faire baisser les prix un peu plus tôt que prévu, puisqu'ils se reverront dès le mois de mai. 7h26 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Attention. Demanche pirate, le 32-16.
Attention, il arrive.
Faisait attention.
C'est Arnaud Demanche et il est passé par le standard. Et ce qui fait réagir au standard, Arnaud, c'est l'interpellation, du directeur du parti politique Nouveau Centre. Oui. J'ai vu ça. Nicolas Jeannetet, qui est soupçonné d'avoir détenu et revendu de la drogue au cours de soirées Chemsex.
Eh oui, j'aime bien ce genre d'infos parce que j'ai pas besoin de travailler.
Vous voyez que je suis vraiment d'une naïveté confondante.
Il faut sortir un peu plus le samedi soir, Apolline.
Comment ça va
pas. Donc voilà, un dirigeant centriste faisait des soirées Chemsex et revendait des drogues de synthèse à ses partenaires. Et Basile de Plougastel réagit. Nicolas Jeannetet, c'est donc le Pierre Palmade du centre. Enfin, en moins drôle, il est centriste quand même. Mais au moins, lui, après sa soirée, visiblement, il rentre en taxi. Chacun ses points forts. On a reçu aussi un message de Bernard de la Bernardière, un jeune journaliste à chemise blanche et mèche de cheveux qui a enquêté sur le sujet et nous propose une bande-annonce.
Drogue, chemsex, motion de censure. Les équipes d'exclusivité exclusive s'infiltrent chez les centristes. Entre Charles de Courson qui met le feu à l'Assemblée et le patron du nouveau centre qui est un dealer, les centristes sont-ils les nouveaux punks? Je suis Bernard de la Bernardière et je marche actuellement dans les bureaux du parti centriste à l'Assemblée. Ici, la moquette est étrangement collante. Signe que Nicolas Jeannetet a récemment organisé une soirée drogue dure avec une douzaine d'assistants parlementaires fans de Valéry Giscard d'Estaing. Les ravages de la drogue. Mais j'aperçois François Bayrou en blouson de cuir et coiffé avec une crête. Bonjour Monsieur Bayrou. Nous, les centristes, nous sommes des rebelles. Je me suis fait ce matin un tatouage anarchiste avec une seringue usagée trouvée square des Batignolles, ainsi qu'un piercing au scrotum avec la perforatrice de bureau que j'utilise pour classer mes documents. Que de révélations sur ce milieu délirant du centre, Apolline.
Le nouveau centre.
Bon appétit, bien sûr.
Les nouveaux punks. Arnaud de Manche, on vous retrouve tout à l'heure à 8h20. 7h28, à tout de suite pour la météo journal. Et 7h30, c'est l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La pénurie de carburant s'accroît en France. 12% des stations-service sont sous tension. Phénomène davantage marqué en Loire-Atlantique, mais aussi et surtout dans le sud du pays. Sixième soirée de contestation consécutive dans la rue partout en France, émaillée de violence par endroits. Une colère que le chef de l'État souhaite apaiser. Emmanuel Macron s'adresse aux Français à la mi-journée. Et puis c'est une loi qui fait bondir la grande distribution. Egalim 3 soumis au vote des députés aujourd'hui, donnant la main aux fournisseurs lors des négociations commerciales.
La galère continue pour les automobilistes dans le sud du pays.
De nombreuses stations-service sont à sec, c'est le cas dans les Bouches-du-Rhône avec 41% des stations en rupture de carburant. Plus de la moitié d'entre elles sont sous tension dans ce département. C'est aussi le cas dans le Gard avec 41% des stations impactées par la pénurie. Ce matin, un département dans lequel il est interdit de remplir des bidons d'essence. Une mesure pas forcément respectée comme l'a constaté Estelle Henry Anime pour RMC.
Pour cette automobiliste, pas le choix, c'est bien dans un bidon qu'elle fait une partie de son plein malgré l'interdiction.
Je suis en panne. Et je suis même pas en panne à côté de chez moi. Je suis en panne vraiment à 20 km de chez moi, quoi. Donc j'ai pas le moyen, demain je travaille. On n'a pas le choix, on est tous dans la même galère.
Pas le choix non plus pour Isabelle qui remplit son réservoir de 60 litres de gasoil au lieu des 30 autorisés à la pompe.
Je vais le faire en deux fois. On n'a pas le choix. Et mon fils, moi, il est invalide, donc faut que je l'amène faire ses examens. J'ai pas de gasoil, qui c'est qui va le faire? Mais je veux pas laisser mon fils malade, moi.
De quoi agacer fortement Leslie qui ne comprend pas.
C'est débile. Ben parce qu'après, tout le monde va faire pareil. Et déjà, comment cause d'essence, c'est pas possible. C'est inadmissible.
Des pratiques difficilement contrôlables pour les agents de sécurité, clairement débordés par l'affluence.
On va dire 70% qui respectent et 30% soit ils savent pas, soit l'incivilité. Celles qui sont visibles devant nous, on peut intervenir. Mais celles qui sont pas, on ne peut pas le voir, on ne peut pas gérer la circulation, on puisse voir combien de litres ils vont mettre.
Dans le Gard, les restrictions de carburant à la pompe devraient durer au moins jusqu'à jeudi minuit.
Les conséquences de cette pénurie, plusieurs opérations de blocage, c'est le cas à la raffinerie de Fos-sur-Mer. Après des tensions hier matin en raison de réquisitions de personnel par le gouvernement, de nouvelles actions sont prévues sur le site ce matin. Nouvelle nuit de tensions dans plusieurs villes du pays, à Rennes, Nantes, Grenoble ou encore Paris. Rassemblements spontanés, émaillés de face à face, parfois violents avec les forces de l'ordre. Dans ce contexte, la défenseure des droits fait part de sa préoccupation et de son inquiétude face aux nombreuses interpellations préventives, accusations rejeté par le préfet de police de Paris, où Laurent Nunez affirme qu'il n'y a pas d'interpellation injustifiée dans la capitale. Et la dernière sortie d'Emmanuel Macron ne devrait pas calmer la colère de la rue. Devant les parlementaires de la majorité, hier soir, le chef de l'État affirme que la foule n'a pas, je cite, la légitimité face aux élus, référence au rejet de la motion de censure à l'Assemblée nationale. Le président de la République tentera tout de même de calmer la contestation à 13h ce mercredi. Interview à suivre sur TF1, France 2 et BFM TV. Premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure n'attend pas grand-chose de cette prise de parole.
Je sais très bien que le président a comme volonté de passer en force et de continuer, et que la seule chose qui peut le faire céder, c'est notre détermination, le fait que nous ne bougions pas. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'il change de gouvernement. Je crois que les Français sont aussi très majoritairement acquis à cette cause. Mais ça ne suffit pas. C'est pas simplement changer de gouvernement, c'est aussi un changement plus profond, notamment en retirant ce projet de réforme des retraites. À partir de là, il ouvrirait une vraie nouvelle séquence. Si c'est simplement pour changer le casting, on s'en fout.
Mais ni référendum, ni remaniement, ni dissolution ne sont pourtant à attendre de cette interview, fait savoir l'entourage du président. Pourtant, dans les colonnes du Figaro, ce matin, Édouard Philippe appelle à une coalition allant de la gauche à la droite, excluant la NUPES. Les moments forts de la prise de parole d'Emmanuel Macron aujourd'hui et toutes les réactions sont à vivre sur RMC en direct et sur RMC.fr. Une interview qui intervient la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Demain, une journée d'action déterminante pour l'intersyndicale. Victor Jonin.
Au vu des remontées des salariés qui doivent se déclarer grévistes en avance dans la fonction publique et dans les transports, les syndicats s'attendent à un regain de mobilisation. C'est l'effet 49-3, observe un haut responsable, qui vise au moins 2 millions de personnes dans les rues, comme pour le premier temps fort du 19 janvier. Les craintes de violence sont dans toutes les têtes. On va se faire déborder, c'est inévitable, et c'est pas faute d'avoir prévenu le gouvernement, prédit un cadre de la CGT. Mais pour le numéro 2 d'un syndicat réformiste, ça ne veut pas dire que le mouvement nous échappe. Les actions de blocage et les rassemblements pacifiques en journée se multiplient et ce sont les militants syndicaux à la baguette. L'ampleur de la mobilisation de demain déterminera la suite du mouvement. En cas d'échec, peu probable que l'intersyndicale appelle à de nouvelles manifestations. C'est comme à la télé, s'il n'y a pas d'audimat, on supprime l'émission, ajoute ce syndicaliste.
Et entre 600 et 8000 manifestants sont attendus demain dans le pays selon les autorités. 12000 policiers et gendarmes seront mobilisés selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Difficulté à prévoir à la SNCF, dans les airs, dans les transports en commun, mais aussi dans l'enseignement. Il est 7h36 sur RMC, pardon. La grande distribution vent debout contre une proposition de loi soumise au vote des députés ce mardi. La loi Descrozailles ou Egalim 3 visant à rééquilibrer les négociations commerciales entre distributeurs et fournisseurs pour les futures négociations commerciales. Explication ce matin d'Alfred Orange.
Avec ce texte, les fournisseurs vont désormais avoir la main sur les négociations commerciales. L'article 3, qui concentre les critiques, doit permettre aux grands industriels de rompre sans frais la relation commerciale en cas de désaccord sur les prix. Autrement dit, pour les distributeurs, ce sera à prendre ou à laisser. Un médiateur pourra interférer pour faciliter les accords, mais les industriels auront toujours le dernier mot. Ce projet de loi enterre aussi les promotions XXL en magasin. Le rapporteur du texte, Frédéric Descrozailles, veut les plafonner à 34%. Ce qui provoque l'ire des distributeurs, une colère entendue par Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie milite pour les rehausser à 50%. Bercy estime qu'il est aujourd'hui paradoxal de limiter l'ampleur des promotions en ces temps d'inflation.
Et l'Assemblée nationale, qui a une large majorité, a adopté hier le projet de loi de relance du nucléaire visant à bâtir 6 nouveaux réacteurs EPR d'ici 2035, promesse d'Emmanuel Macron. Ils seront le visage des Jeux. Paris 2024 recherche 45 000 volontaires. La plateforme d'inscription ouvre aujourd'hui. Trois conditions pour postuler: avoir 18 ans ou plus au 1er janvier 2024, parler français et ou anglais, enfin être disponible au moins 10 jours, c'est évident, sur la période des Jeux Olympiques et Paralympiques en août 2024.
Et puis avoir où se loger aussi, hein.
Oui, aussi.
Se loger à Paris au moment des Jeux Olympiques, c'est pas forcément gagné.
Non.
Les courses sur l'hippodrome de Lisieux.
C'est à Lisieux à 13h50 sur RMC. Découverte en direct le 14. Ritano est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 12. Goutte du Houlbé, le 14 et le 12.
Ça vous avait manqué hier, hein. Il n'y avait pas les courses hier.
J'ai reçu des messages d'ailleurs.
Thibaut, tout chagrin. Il est 7h38 sur RMC.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
Panne sèche en PACA. 40% des stations sont complètement à sec. Les fils s'allongent à la pompe et l'économie tourne au ralenti. On retrouvera notre envoyé spécial au dépôt de Fos-sur-Mer et le président de la Chambre des commerces de commerce d'Aix-Marseille qui sera également en direct sur Apolline Matin. N'hésitez pas, vous aussi, vous nous appelez au 3216. Vous habitez la région. Dites-nous comment ça se passe.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC.
L'invité du jour.
On va partir tout de suite à Marseille. Bonjour Jean-Luc Chauvin. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille. Vous êtes aux premières loges pour constater les effets du manque de carburant dans la région. On va y revenir. Mais d'abord, j'aimerais qu'on aille au point de départ avec vous tous aussi qui nous appelez au 3216 depuis ce matin pour nous dire ce que vous vivez. Jean-Luc Chauvin, vous êtes là. Philippe est également là, de la Seyne-sur-Mer. Bonjour Philippe.
Bonjour Pauline.
Philippe, vous êtes chef d'entreprise, vous vendez du carrelage, vous avez ouvert plusieurs magasins, c'est bien ça ?
C'est bien ça, je suis installé aujourd'hui à la Valentine et sur la route des Trois-Lucs, je peux citer les magasins ou
pas ? Ah bah allez-y, c'est le moment.
Bon ben voilà, il y en a un qui s'appelle les Carrelages de Marseille, on est situé à la Valentine,
ouais.
Et l'autre je viens d'ouvrir ce nouveau magasin qui s'appelle CDM Stone qui vend de la pierre et on est installé à Saint-Menet, dans l'arrondissement de Marseille.
Et est-ce que les gens viennent encore là ?
Ben aujourd'hui, on rencontre le problème, j'ai ouvert ce magasin il y a 2 mois, on rencontre le problème depuis les grèves. J'ai beaucoup moins de fréquentation et j'ai fait des investissements énormes et je suis un peu lié pied et main, quoi, parce que, ben d'une part, parce que je suis caution personnelle auprès des banques, auprès de mon propriétaire, et j'attends, et à 60 ans, j'ai fait un investissement qui est autre que celui qui est dans l'attente de tout le monde, quoi. Enfin, à 60 ans, on a d'autres ambitions, d'aller près de la retraite, quoi. C'est plus que
vous avez justement lancé au moment où tout le monde dit faut prendre sa retraite jeune, vous avez lancé une nouvelle activité à 60 ans. Philippe, restez avec nous justement pour pouvoir témoigner. Jean-Luc Chauvin, avec vous, on prend un peu de hauteur puisque vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille. Globalement, que vous disent aujourd'hui les commerçants, les artisans, les patrons d'entreprise?
Écoutez, ils sont très inquiets, vous venez de l'entendre. Ils sont très inquiets pour plusieurs raisons. Les commerçants d'abord, parce qu'ils ont peur d'avoir à subir des dégradations de leur commerce, comme ça a été le cas jeudi soir de façon très violente à Marseille, et comme ça pourrait être à nouveau le cas. Ils sont très inquiets parce que les clients ne viennent plus. en centre-ville parce qu'ils ont peur de tomber au milieu de manifestations et aussi parce qu'ils n'ont plus de carburant. Et ils sont très inquiets, en fait, tous, pour pouvoir maintenir leur activité et faire en sorte que leur entreprise puisse être pérennisée avec l'emploi qui va avec. On est dans une situation, finalement, où ceux qui travaillent beaucoup, ceux qui sont concernés, se retrouvent pris en otage par peut-être ceux dont ils ont le sentiment qu'ils ont déjà des régimes spéciaux et qu'ils ne sont pas vraiment concernés, mais qui bloquent le pays avec parfois des exactions très violentes.
Alors, on l'a entendu d'ailleurs, notamment dans le journal Les Échos ce matin, il y a une interview du patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, qui s'était très peu exprimé depuis le début de la mobilisation et depuis le début de la réflexion sur la réforme des retraites, mais qui appelle à une reprise du travail partout et qui appelle à ce que cette réforme-là, elle puisse être poursuivie et avancée. C'est vraiment le point de vue aujourd'hui du patronat. Pour autant, Jean-Luc Chevrin, depuis ce matin, on a aussi des témoignages de gens qui disent mais mon patron, des patrons de PME, de TPE qui ont une dizaine de salariés, bah en même temps, ils comprennent quand même les grèves. Là, chez vous, le problème, c'est les blocages précisément, hein, Jean-Luc Chevrin.
Oui, comprendre les grèves, bien sûr, tout le monde les comprend. La réalité, on peut en discuter. Là, le sujet, c'est qu'on bloque l'économie. Certains prennent en otage, avec le problème de l'essence d'un côté, avec d'autres sujets, prennent en otage tous ceux qui ont besoin aussi de travailler, de continuer à vivre. À nouveau, on rentre dans un phénomène où on vit maintenant depuis 3 jours une grève des poubelles.
La collecte des déchets, qui est donc perturbée en effet à Marseille depuis lundi matin.
Il faut qu'il appelle
à une grève reconductible. Hein.
Oui, et qui du coup fait craindre des épisodes qu'on a déjà connus ici sur ce territoire à de nombreuses reprises, qui appellent à des problèmes sanitaires importants, qui appellent à des problèmes surtout avec les manifestations actuelles de feu, de poubelles ou autres, et qui met globalement tout le monde dans une situation d'inquiétude, et donc l'activité économique ne fonctionne plus. Vous savez, l'activité économique, son marqueur, c'est la confiance. Quand il n'y a pas la confiance ou quand une partie de l'économie est bloquée, l'économie ne marche plus. Et vous entendiez tout à l'heure votre auditeur qui a expliqué que lui, à 60 ans, il avait pris des risques, il s'était engagé, il était caution vis-à-vis de la banque, il était caution vis-à-vis de son propriétaire. Et vous vous rendez compte si à cause de ces événements, il ne peut pas honorer ses fins de mois, mais c'est lui qui va remettre en cause tout ce qu'il a fait toute sa vie.
Alors on va donc, pas parler tout de suite de malheur, mais Jean-Luc Chevrin, en effet, on le sent bien, cette inquiétude. Philippe, justement, vous êtes resté avec nous, c'est de vous qu'on parle. Philippe, cette inquiétude, d'abord, je dirais une question très concrète. Vous nous dites que vos magasins, ils se trouvent le long de la route. Qu'en est-il sur la route? C'est-à-dire qu'on sait que 40% des stations du département sont à sec ce matin.
Oui.
Est-ce que ça veut dire aussi que les gens prennent moins leur voiture ou en tout cas vont repousser ce qui les aurait fait sortir de leur trajet absolument nécessaire et irréductible?
Ben oui, Apolline, je vais vous dire, je vais vous donner des exemples concrets. Aujourd'hui, je fais le trajet, moi, la Seine-sur-Mer, Marseille, tous les jours, matin et soir. Je travaille 6 jours sur 7. Je commence à 7h30 et je finis à 19h. Donc, vous imaginez les heures et le travail que je fais. Oui. Peu importe, ça fait partie de ma vie. Mais c'est surtout pour dire que, habituellement, on a toujours un peu un engorgement sur la région d'Aubagne pour rentrer sur Marseille, parce que les gens se déplacent, mais là, il n'y a personne sur la route, ça circule. Les gens travaillent sûrement à domicile.
Étonnamment, il y a moins de monde sur la route, mais parce que de fait, ils réduisent tous les trajets
Absolument, ils réduisent les trajets, et ce n'est pas leur priorité aujourd'hui. Leur priorité, c'est quand même la nourriture avec les augmentations. Mmh. Je veux dire, aujourd'hui, les gens, quand il y a un problème national, en l'occurrence celui de l'essence et celui des grèves, ils vont donner leur déplacement et leur intérêt prioritaire sur d'autres choses que d'aménager leur jardin ou leur carrelage ou leur salle de bain. Vous voyez
Et vos salariés, Philippe?
Moi, j'ai 11 salariés, vous imaginez, j'ai 11 salariés. Mon souhait, c'est que quand même ma société se porte bien, que je puisse nourrir ces 11 familles. Et en l'occurrence, je suis inquiet parce que je sais pas où on va. J'ai pas aujourd'hui, si vous voulez, avant, j'avais une vision un peu du marché sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, vous parlez à tous les chefs d'entreprise, je parle de notre région, bien sûr. J'ai aucune vision, c'est-à-dire que vous pouvez travailler très bien une journée, faire le chiffre d'affaires de 3 jours ou une semaine, et puis pendant 10 jours, ne plus rien faire. c'est très dramatique parce qu'on n'a vraiment aucune vision du
marché. La grande difficulté d'être obligé de vivre au jour le jour. Philippe, je voudrais qu'on retrouve aussi Jean-Luc Chauvin, donc président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille. On sait qu'il va y avoir une nouvelle journée de manifestation demain, en plus des manifestations dites sauvages, c'est-à-dire non déclarées, qui ont eu lieu ces derniers jours. Vous redoutez le fait que ça tienne longtemps. Combien de temps peuvent tenir dans ce genre de situation les commerçants et les entreprises du département?
Écoutez, c'est très compliqué de donner un délai. Ce que je peux vous dire, et votre auditeur, enfin notre chef d'entreprise vient de le dire, il y a une succession depuis 3 ans d'événements qui fragilisent les entreprises et en particulier les commerçants, notamment. Et toutes ces manifestations qui font en sorte que nos concitoyens ne vont pas du coup en ville pour pouvoir faire leurs courses parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver au milieu de manifestations, parce qu'ils n'ont pas d'essence, ils restent chez eux, ils diffèrent, mettent en danger un peu plus tous les jours, nos commerces et les emplois qui vont avec nos commerces. La réalité, c'est que il n'y aura pas du jour au lendemain la totalité des commerçants et des artisans et des entrepreneurs qui vont se retrouver à fermer, mais ça va participer à accélérer le mouvement. Donc il faut trouver une solution, il faut sortir de cette situation et faire en sorte que chacun retrouve aussi raison gardée. Sujet compliqué.
Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille, merci à vous. Merci aussi à Philippe qui nous appelait et témoignait aussi de ces magasins de pierre et de carrelage. Je vous le disais, on avait reçu d'ailleurs la semaine dernière Olivier Matteux, carrément de l'autre côté de la chaîne, qui lui est à la tête de la CGT des Bouches-du-Rhône, a redit hier, il faut des grèves partout, tous les jours et dans tous les secteurs. Il n'y a plus aucune règle qui vaille. Donner la parole à chacun, c'est aussi ça, RMC. Il est 7h50.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
La Chine et la Russie sont en train de devenir les meilleurs amis du monde. Visite très importante hier du président chinois à Moscou. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour la guerre en Ukraine? Réponse dans un instant avec Nicolas Poincaré.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus de Charles. Après Patrick Bruel, c'est le rappeur marseillais SCH qui prend position contre la réforme des retraites et l'usage du 49-3.
Oui, m'a gâté. RS4 Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté.
Oui, et ils sont pour l'instant rares, les artistes, à avoir pris position clairement au sujet de cette réforme. On peut citer des comédiens comme Adèle Haenel ou Jean-Pierre Darroussin. Côté musique, il y a donc Patrick Bruel qui, ce week-end sur France 2, a dénoncé, je le cite, l'offense que représenterait le 49-3. Et SCH est donc la première tête d'affiche du rap à s'engager sur ce terrain. Le gouvernement n'a rien à faire de la voix du peuple. L'utilisation du 49-3 en est la preuve, écrit-il sur Twitter. Et il poursuit à ceux qui jugeront que je n'ai pas la légitimité pour en parler. Sachez que je n'oublie pas d'où je viens et j'ai trop de respect pour nos héros pour n'être qu'un objet de divertissement, écrit le rappeur, qui n'est pas la seule idole des jeunes à s'exprimer sur le sujet. Si je vous dis Enjoy Phoenix, Lena Situation, Seb Lafrite ou encore Inox Tag, ils sont youtubeurs, influenceurs, streamers et ont publié ces derniers jours des messages contre la réforme des retraites. On peut aussi citer Joystar, tiens, autre rappeur, qui estime sur Instagram, je le cite, qu'on ne peut pas à la fois se serrer la ceinture tout en baissant son froc.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h54 et c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous
Nicolas, le président chinois Xi Jinping achève une visite de 3 jours en Russie. Les deux pays ont célébré en grande pompe leur amitié, c'était spectaculaire.
Oui, rien à voir avec la première visite d'un dirigeant chinois communiste à Moscou, c'était au début des années 50. Mao Tse-tung était venu à Pékin en train et Staline l'avait fait poireauter 5 jours avant de daigner le rencontrer, histoire de bien lui montrer qui était le patron. 70 ans plus tard, les choses ont bien changé. Xi Jinping a été accueilli avec tous les égards et les honneurs. Vladimir Poutine l'a reçu 2 fois en 2 jours et plusieurs heures à chaque fois. Les deux présidents ont porté des toasts à l'amitié sans limite, à la coopération entre les deux puissances voisines. Et plus concrètement, ils ont signé des accords économiques, notamment pour la construction d'un immense gazoduc géant supplémentaire qui reliera la Sibérie à la Chine et qui permettra de livrer des milliards de mètres cubes de gaz. À terme, les Russes pourront vendre aux Chinois tout le gaz qu'ils ne vendent plus aux Européens. À l'inverse, pour ne prendre qu'un exemple, la part des voitures chinoises vendues en Russie va passer de 7 à 60% depuis que les constructeurs européens comme Renault ont quitté le pays.
Mais c'est surtout sur le plan diplomatique que les pays se rapprochent.
Oui, Xi Jinping vient d'être réélu pour un troisième mandat de président chinois, réélu à l'unanimité des membres de l'Assemblée nationale populaire. Il a aussitôt nommé un nouveau ministre des Affaires étrangères, Qin Gang, connu pour ses positions anti-américaines. C'est ce qu'on appelle en Chine un loup qui n'hésite pas à parler de la guerre contre les États-Unis comme d'une probabilité à laquelle le pays doit se préparer. Ce nouveau discours chinois, beaucoup plus agressif vis-à-vis des Américains, ne peut que plaire à Vladimir Poutine, lui-même en guerre contre l'OTAN. C'est donc à la naissance d'un bloc anti-occidental que l'on a assisté cette semaine à Moscou, avec tout de même une ligne rouge qui n'a pas été franchie. Il n'a pas été question que la Chine vende des armes à la Russie, en tout cas pas ouvertement.
D'autant que la Chine voudrait servir de médiateur dans le conflit avec l'Ukraine.
Oui, Xi Jinping est arrivé à Moscou avec un plan de paix en 12 points qui se veut équilibré. La Chine propose un cessez-le-feu et des négociations dès que possible en vue d'un règlement global. Mais Pékin ne précise pas sur quelle base ni de quelle frontière on va discuter. C'est donc une posture, une apparence de neutralité, alors qu'en réalité, la Chine n'a jamais condamné l'invasion russe de l'Ukraine ni lâché la Russie. Et d'ailleurs, Xi Jinping hier a invité Vladimir Poutine à venir rapidement à Pékin, façon de montrer qu'il ne tient aucun compte du mandat d'arrêt international que vient de lancer la Cour pénale internationale contre le président russe, c'était vendredi dernier. Poutine qui est donc désormais considéré comme un criminel de guerre par la justice internationale, mais pas par son ami Xi Jinping.
Et la diplomatie chinoise veut aussi intervenir sur d'autres dossiers chauds.
Oui, le 10 mars, il y a 15 jours, donc l'Iran et l'Arabie Saoudite ont rétabli leurs relations diplomatiques. C'est un événement majeur, la réconciliation des chiites et des sunnites qui brise l'isolement de l'Iran et qui s'est fait dans le dos des Américains et des Israéliens. Et où cet accord a été négocié et signé, eh bien à Pékin, sous l'égide de la Chine. C'est très spectaculaire. Cet accord, il y a 15 jours, et cette visite à Moscou aujourd'hui montre bien que Xi Jinping a décidé pour son troisième mandat de peser sur les affaires du monde.
Les explications de Nicolas Poincaré. À tout de suite pour la météo du journal.